Ça a commencé en 1827 avec les houillères dans le département de la Loire qui ouvre 20 km de veau. C'est le système primitif parce que les wagonnets sont tirés par des chevaux sur rails en fonte et que du charbon. En 1831, le transport des voyageurs Saint-Étienne-Lyon, la première locomotive à vapeur. En 1843, on fait une relation entre Rouen et Orléans. En 1879, il y a l'essor du chemin de fer français. On fait 30 000 km en 1852. En 1870, on en fait 17 000. En 82, 26 000. On desserte tous les ruraux, c'est-à-dire tous les petits villages ruraux. Après la Première Guerre, déjà la concurrence rentre en place. Les bus, la voiture. Ce qui fait que les gares sont désertées. La fermeture des lignes en 1930, déjà. Le monde rural abandonné, comme aujourd'hui. On supprime les petites lignes, comme aujourd'hui. En 1920, il y a 1500 cheminots en grève suite à une mise à pied d'un camarade Campano qu'il était, il travaillait à Villeneuve-Saint-Georges. Il avait été sanctionné, donc il avait été mis à pied. En 1920, il est né la CGTU. Il y a eu un conflit au congrès de Tours, 1920. Il y a eu une opposition entre la CGT et ceux qui étaient contre l'orientation de la CGT, notamment avec les réformistes. Il y a eu l'histoire de Pierre Sémer. C'est un camarade qui était fils de cheminot et qui a évolué au niveau de la CGT et qui est devenu premier secrétaire de la CGTU. Alors, c'est un révolutionnaire. Hein, parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas révolutionnaire, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre qu'on n'est pas révolutionnaire quand on est à la CGT, quoi. Et il a progressé au niveau de la CGT. Il a été appelé pendant la guerre par Jean Moulin pour décréter à la fois la résistance chez les cheminots, chose qu'aujourd'hui on commémore par exemple dans la stèle de la cité des cheminots. Et puis notre camarade, il a adhéré aussi au PCF. Il a été secrétaire général du PCF à l'époque. Il a été fusillé le 7 mars 1942. Et chaque année, nous, à Lens, au dépôt, on rend hommage à notre camarade, avec d'autres copains, évidents, qui aujourd'hui ont chassé les nazis, mais qui aujourd'hui redevient prudent. Parce qu'à la fois, l'extrême droite remonte petit à petit chez nous, mais aussi dans toute l'Europe. Au XXe siècle, il y a eu trois grandes grèves. À la fois 1953, déjà avec le gouvernement Laniel, qui voulait réformer les retraites, il a dû abandonner parce que les cheminots ont fait grève pendant 3 semaines au mois d'août, notamment mon père qui était déjà cheminot, mais d'autres aussi, hein, forcément, les camarades se sont mobilisés par rapport à ça. Alors après, il y a eu 86-87, où là, c'était la plus grande grève du XXe siècle, avec 29 jours de grève par rapport au projet de modification de la grille des salaires au mérite. Et moi, j'en faisais partie, des grévistes. Hein. Donc voilà. Après, il y a eu 1995, où là, il y a eu le gouvernement Juppé avec Rocker qui a reculé sur le régime des cheminots. Donc là aussi, il y a eu que 18 jours. Ça n'a pas duré longtemps. Ça prouve quand même quelque chose que là, il y avait un rapport de force avec l'appui des autres organisations unitaires, mais aussi avec le privé et d'autres services publics, ça bouge. Aujourd'hui, on a du mal à converger tout ça. C'est dommage parce que là, on en prend plein notre pipe. Voilà, le bulldozer est en marche, ça c'est clair. Ouais. Quand même, il y a eu 68 quand même. Déjà, on pouvait pas se rendre à LM. C'était pas possible, il n'y avait pas de train. Donc, comme je restais derrière le dépôt, dans les appartements, j'allais au dépôt avec les copains. Et puis, bon, j'avais un beau-frère qui était mécanicien. Hein. Donc, après, j'ai fait connaissance des camarades de CGT, forcément. Mais c'était folklorique, hein, en 68. Hein. C'est une époque vraiment incroyable. Hein. Quand je suis parti au mois de juin en vacances avec ma famille, j'ai parti avec 200 balles. Hein. Avec une tente, je te dis pas, c'était vraiment une toile, une vieille toile. Et j'ai parti à Port-Vendres, au train, forcément, avec une malle. Et puis, on a monté cette tente. Il n'y avait qu'une chambre, hein, donc on dormait à quatre, avec la femme et puis les deux enfants. Puis, à un moment, j'avais plus d'argent, quoi. Ce qui fait que, à l'époque, il y avait des gens qui s'occupaient du camp municipal, c'était des communaux, qui m'ont vu que j'étais pas bien, quoi. Et j'avais 24 ans, hein. Alors, ils me disent, ça va pas? Non. J'ai suis cheminot, puis j'ai fait grève, donc j'attends après mes sous, mais j'y arrive pas. Alors, il dit, oh, tu viens avec nous? J'étais dans la cabane. Il nous a servi un coup, un tostis. Alors il y en a un, il me dit, combien tu veux? Je lui dis, comment? Il dit, combien tu veux d'argent? Il dit, écoutez, je suis gêné. Non, il dit, je vais t'expliquer. Il dit, moi j'ai été prisonnier ici à Lille, dans la région de Lille, ça doit être à Los. Et les gens m'ont aidé. Donc il dit, vu que tu es du Nord, je vais t'aider aussi. Puis je te fais confiance. Alors, combien tu veux? Je ne sais pas, 500. 500. Après-midi, tu les as. Il m'a filé 500 balles. 500 balles. Après, il y avait le port de Port-Vendres qui, à la fois, qui vivait. C'était un port marchand, mais aussi pêcheur. Et tous les bateaux, tous les camarades, ils avaient dévalisé tous ces bateaux. Ils avaient mis tout sur les quais. T'avais des caisses de tomates, des haricots, des conserves. Donc moi, je vais en ville, je dis, putain, merde. Oh, ben, je vais prendre un cajot de tomates et puis un cajot d'haricots. Il fait, hello, beau. Donc je suis retourné au camp, puis je l'ai dit à tout le monde. Mais tout le monde y était. Il y avait, sur le quai, il était propre. Il n'y a plus rien du tout. Et je te dis, j'avais que 24 ans, hein, tu vois. C'est ça, révolutionnaire. Hein. Oui, il y a eu, ouais, 71. Après, 75, il y a eu 75. Ben, 95, hein, oui, 95, c'était important quand même, parce que je me souviens, il y avait Fertro qui nous poursuivait à la mairie de Lens avec ma camarade Didier. Et toutes les portes se fermaient quand on est rentré dans l'hôtel de ville. Tic, 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 tic. Puis là, il a entre-ouvert la porte. Puis il dit, c'est quoi? C'est pourquoi? On veut voir monsieur le maire. Ah ben, monsieur le maire, il est pas là. On leur dit, ouais, il a pris l'ascenseur pour se sauver, ouais, c'est ça. Ça, c'était... Tu vois vraiment les socialistes comment ils sont, quoi. C'est incroyable, ça. Alors qu'ils devaient nous accueillir. On n'est pas des voleurs, on n'est pas des tueurs. Ça m'a marqué quand même. C'est pour ça que j'ai jamais fait confiance à un socialiste. Ma mère, elle avait raison. Et j'ai raison parce que si aujourd'hui on est dans la merde, moi je le dis dans la merde, c'est grâce à eux, avec le gouvernement qu'il y a eu auparavant, antisocial. Donc le système toujours capitaliste, c'est pour ça qu'il faut changer de société. Le partage du fromage, t'as un fromage, tout y est partagé, et nous, les prolétaires, il nous reste que 5% du gros fromage. alors que c'est nous qui créons les richesses, quoi. Donc 2018, ici, avec la grande grève du 21e siècle, c'est mémorable parce qu'à la fois, la CGT avec les autres syndicats unitaires ont changé de stratégie. À la fois, n'ont plus une grève illimitée jour par jour. Là, c'est 2 jours sur 5 jours. Ça perturbe plus que si on faisait jour par jour. Pourquoi ? La SNCF, c'est pas des bus, c'est pas des voitures. Il faut l'entretien des machines. Mais après l'entretien des machines, quand un mécanicien comme moi, à l'époque, comme aujourd'hui, les compagnons qui prennent leur service, il leur faut une bécane. Or, quand il y a eu un conflit comme ça, les rames, on ne sait pas où elles sont. Donc, ils sont obligés de chercher après. Donc, ça perturbe. C'est pour ça que quand on fait grève, par exemple, lundi, mardi, on commence à 8h, ça c'est pour les roulants, jusqu'à 8h le surlendemain. Mais à la fois, tu ne redeviens pas normal à 8h au matin, le surlendemain. C'est pour ça qu'on perturbe jusque dans l'après-midi, parce que les rames, elles sont à droite, à gauche, enfin bref. Voilà. Même s'il n'y a pas un rapport de force excessif, mais il y a une perturbation qui persiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas l'unité à la fois avec la CFDT et l'UEDSA, nous, la CGT avec Sudrail, on continue la grève. Donc on va refaire un tableau de façon à continuer la grève au mois de juillet. La stratégie, l'État, pour nous, il n'y a rien de concret. On n'a pas de certitude au dire du gouvernement. Alors, la ministre Borde, elle est bornée, c'est sûr. Edouard, lui, il suit Macron. Et Macron, il dit, j'irai jusqu'au bout. Ben, nous, on dit, nous aussi, on ira jusqu'au bout. C'est compliqué, mais à la fois, on peut flancher, on peut revenir et on peut gagner. La situation en tant que retraité, mes camarades Nanner qui est pareil, puis d'autres copains qui sont retraités, on est concernés nous aussi par rapport à cette grève parce que à la fois c'est notre statut, c'est notre entreprise. Même si on n'est plus dans l'entreprise en tel actif, mais on est toujours dans l'entreprise retraité. Pourquoi ? Parce que nous sommes payés par la SNCF. C'est-à-dire que c'est la caisse, c'est la Banque de France qui nous paye. Et la Banque de France, c'est l'État. Et comme les actifs, donc de là, on bénéficie, comme les actifs, de tous les acquis que nous avons eus précédemment grâce à nos anciens. À 47 ans, j'étais secrétaire des retraités. J'étais encore en actif. Hein. Quand je suis arrivé au secteur, forcément, avec les vieux copains de 80, 85, 90 ans, ils m'ont vu arriver. T'es secrétaire des retraités, toi ? Ben ouais, t'as fait ta communion. Ouais, j'ai fait ma communion. Alors, donc forcément, en 95, j'avais un rôle en tant que retraité. C'est sûr. Donc, il fallait mobiliser les copains. Avec les actifs, c'est seul tous ensemble. Hein. Il y a eu des périodes dans lesquelles je n'ai pas fait grève, parce que j'étais pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. Par exemple, à l'époque, il y avait une promotion au niveau des mécaniciens. Moi, j'étais contre, parce qu'à la fois, on n'avait rien. Bon, on changeait de grade, mais on n'avait rien du tout. Je lui ai dit, pourquoi faire une grève qui ne sert à rien ? Donc, j'ai pas fait grève. Il n'y a pas que moi qui n'avais pas fait grève. Mais sinon, les grandes grèves, ouais. Ouais, si, quand même. Il y a des copains qui font pas grève, ouais, mais qui sont d'accord avec nous. Puis après, tu as un problème aussi financier. quand tu fais bâtir, quand tu n'as qu'un salaire qui rentre dans la maison, c'est vrai que c'est difficile aussi. Hein. Alors, une grève réussie. Oh, alors, une grève réussie, ben, déjà, il faut que les cheminots soient convaincus de la nécessité de faire grève. Prendre en compte ce qui leur tombe sur la tête, on va dire, voilà, je vais me battre parce que je ne veux pas perdre. Je veux gagner parce qu'on a des revendications, il faut les gagner. Ce qu'on ne veut pas, c'est reculer. Aujourd'hui, c'est ça, on recule. On n'avance plus au niveau social, on recule au niveau social. Et les cheminots, une partie comprennent, mais d'autres ne comprennent pas. Notamment les réformistes. Hein, eux, ils veulent toujours négocier. Mais on négocie quoi? On négocie rien du tout. Je me souviens, quand j'étais au CH, comité d'hygiène, on avait des revendications qu'on déposait au président. Puis le président disait, on vous écoute. Non, vous avez nos revendications. Nous, on vous écoute. Tu vois, aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi. Les réunions, ça ne sert à rien. Quand tu as des revendications que le gouvernement ne répond pas aux aspirations des travailleurs, pourquoi les négocier, quoi? On vous écoute, vous nous proposez quoi? Rien. Terminé. Parce que des fois, on perd son temps. Hein. Il vaut mieux aller dans les rues que d'être dans quatre murs. Hein. Anna Dark, c'est vrai. Ouais, Mathieu. Moi, j'ai plein d'anecdotes. Hein. Au travail, je me souviens, j'arrive dans la halle du dépôt avec ma colombe sur le paletot et mon chef d'établissement qui me dit vous m'enleverez ça. Je le regarde, comment ça? Il me dit, vous savez, vous n'avez pas le droit d'avoir des signes distincts. Je dis, vous savez ce que c'est ça? Ou alors je dis, vous êtes un ignare. Hein. Ouais, alors il me dit. Oh, puis je dis, au fait, monsieur, dans votre bureau, là, il y a Goethe. Moi, ça me plaît pas, faudra l'enlever, ça. Les copains, ils me disent, Jean-Claude, t'as pas peur? Ben, je dis, non, j'ai pas peur. Je lui dis, venez me l'enlever si vous voulez l'enlever. Il a tourné les talons, il est parti. Une deuxième porte à droite, c'était son bureau. Donc, revendication par rapport aux copains. Puis il me dit, vous, monsieur Faquez, vous parlez toujours pour vous. Ben, je dis non, moi je suis là pour défendre tous mes copains, moi-même, mais aussi mes camarades. Oui, mais il dit, vous êtes toujours tout seul. Oh. J'avais préconisé ça. Si aux copains, je vous préviens. Hein. Si je tourne la tête et puis que je vois personne, terminé. Non, Jean-Claude. Attendez, monsieur Faquez, j'arrive. Je vous la porte, copain. Allez, rentrez. Tâche, il a fait drôle. Alors, les copains, ils rentrent. Je dis, les camarades, dites à monsieur Faquez les revendications, si c'est que Jean-Claude Faquez, c'est ses propres revendications. Dites-le. Oh non, monsieur, non, Jean-Claude, non, il parle pour tout le monde. Hein. Alors, je me mets derrière lui, le chef d'établissement. Puis je dis, vous savez pas, mes camarades, ce qu'il fait, ça l'intéresse, hein? Il fait des petits dessins. Il fait des petits dessins, tellement que ça l'intéresse. Ça, c'est tout des petits trucs, mais qui sont importants, parce que ça démontre que la CGT n'a pas peur. Tout en restant dans nos droits. Hein. Attention, hein. J'avais un chef de traction qui me disait, tu sais, Jean-Claude, dans la mesure où t'es délégué syndical, mais... Tu fais ton travail convenablement, tu es intouchable. Il avait raison.
Ce sujet a été réalisé par Luc Chaden pour Micro Rebelle, web radio du bassin minier.